Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Laissez entrer. Si je viens, je ne veux pas laisser entrer. Non, je veux même faire bisous.
Pas tout jeter à la poubelle. Il faut tirer des renseignements sur ce match-là.
Là, on est en train de se timorer. On a marqué, on doit être libéré. Et justement, on est encore plus crispé que si on n'avait pas marqué.
On a suffisamment de problèmes comme ça. Je sais que vous allez chercher des distensions dans le vestiaire, des distensions entre l'entraîneur et les joueurs.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde en direct, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit sur RMC, 24h sur 24 en podcast. La compo du soir, coach Courbis est toujours là. Re-salut. Et Kevin Diaz nous rejoint. Salut Kevin.
Salut à tous.
Vous êtes en pleine forme ?
Ça va très bien.
Le retour de la Ligue 1 ce week-end, quel plaisir. On a assisté ce soir au match nul entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims.
Chacun ses habitudes.
Dans un instant, analyse de cette rencontre avec vous au 32-16. Mais Lyonnais, mais Rémois, Adrien là au standard, il vous attend. On va revenir également sur la victoire tout à l'heure de Monaco. 5-2 pour les Monégasques face à Metz. Et puis à partir de 23h30-35, les drôles de dames seront là parce qu'il y a du foot à l'étranger. Grosse journée, gros week-end d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler. Mais ce soir, c'est le dernier match du Barça avant le Paris Saint-Germain dans 10 jours en Ligue des Champions, puisque ce sera Coupe d'Espagne dans une semaine. Le Barça ne jouera pas. Barcelone affronte en ce moment Las Palmas 1-0 pour le Barça grâce à Rafinha. Fred Hermel viendra nous raconter cette rencontre. On sera également avec Paulo Breitner, grosse journée en Allemagne, qui a vu le Bayern Munich perdre à nouveau le Clásico, battu 2-0 par le Borussia Dortmund. Et dans le même temps, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a encore gagné dans des circonstances encore folles. 13 points d'avance sur le Bayern pour le Bayer Leverkusen qui va tout droit. Et puis bien sûr, on donnera les dernières infos à 24 heures de Marseille-Paris Saint-Germain. Chez nous, dernières infos de l'infirmerie marseillaise ce soir à vous donner tout à l'heure. Et puis on écoutera Luis Enrique qui était en conférence de presse cet après-midi, puisque je vous parlais des résultats à l'étranger. Je vous dire également que Brentford et Manchester United sont à égalité un partout. On joue la 100e minute, 10 minutes de temps additionnel. Mason Mount avait ouvert le score à la 96e, mais deux minutes après, égalisation de Brentford, un partout. Et puis en Italie, c'est terminé. L'AC Milan a battu la Fiorentina 2-1. Giroud et Maignan étaient titulaires. Voilà, je vous donne le résultat de Barcelone-Las Palmas. Dès que ça se termine, sur tous ces sujets, évidemment, le 32-16, n'hésitez pas, on vous attend. Vous êtes en direct dans l'After sur RMC. Je vous lis également sur le Direct Studio et sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et vous pouvez venir commenter votre soirée foot. Il y en a qui sont contents de voir Kevin, par exemple, ce soir.
Ouais, on les salue d'ailleurs.
On les salue. Et puis tout au long du week-end sur RMC, on vous offre le tout nouveau maillot de l'équipe de France qui vient juste de sortir pour l'Euro 2024. On en a beaucoup parlé. RMC sera la radio officielle de l'Euro et grâce à Intersport, vous allez pouvoir le remporter. Inscrivez-vous en envoyant bleu par SMS au 732-16, bleu au pluriel, B-L-E-U-S au 732-16. On aura un gagnant ce soir dans l'émission.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
De quoi tu veux parler ce soir, Kevin ?
Bah, le premier point, c'est le match nul de l'Olympique Lyonnais face, et ce sera mon deuxième point, une belle équipe rémoise avec beaucoup de jeunes, mais même quand l'entraîneur n'est pas là, c'est son frère qui le supplée, et il y avait encore une fois un plan de jeu assez cohérent du côté du stade de Reims. Et en troisième point, c'est quand même la belle victoire de l'AS Monaco. On a beaucoup parlé de technique cette semaine, notamment avec Daniel, et quand même quand tu vois l'AS Monaco à ce niveau-là avec bien sûr Golovin, mais aussi le petit Akliouche qui est vraiment un très 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 bon joueur très intéressant, qui a l'air d'être également très très intelligent dans le jeu. Donc on a quand même passé une belle après-midi de foot.
Roland, l'important pour toi, toujours les deux points évidemment.
Ben justement, je commence par le match de cet après-midi où j'ai regardé Monaco avec beaucoup d'attention contre une équipe de Metz inquiétante. Mais bon, je crois que Monaco est capable d'inquiéter beaucoup d'équipes. Et vu le calendrier qu'ils ont, qu'il n'a plus ni de Coupe de France, ni de Coupe d'Europe, ça sera quand même compliqué pour empêcher Monaco de terminer deuxième, voire, dans le pire des cas pour moi, troisième. Et ensuite, ce soir, Lyon qui a pu faire cette, on va appeler, revue d'effectifs, puisque il y a un match très important à prendre très au sérieux, parce qu'on ne sait jamais, des surprises, il y en a, chez Mademoiselle Coupe de France. Donc le match de mardi contre Valenciennes, Lyon largement favori, pas de blessés ce soir. Je pense que c'est une bonne soirée pour les Lyonnais, même s'il n'y a qu'un match nul au bout du compte.
On vous attend au 32-16, supporters lyonnais, supporters rémois. N'hésitez pas à vous nous appeler. Vous êtes en direct sur RMC ce soir pour débattre avec Kevin Diaz et coach Courbis. Il est 23h à la seconde près. Et donc après ce match nul, Reims, 9e, revient provisoirement à hauteur de Rennes avec 39 points. Lyon reste 10e avec 35 points. Kevin, coach, Pierre Sage, on avait parlé cette semaine. On le disait, semaine décisive. Il y a la Coupe de France qui arrive dans 3 semaines, cette demi-finale contre Valenciennes. Et puis, dans cette opération maintien engagée depuis le début de la saison, Pierre Sage avait toujours parlé des caps des 35 points pour être maintenu. Il n'y avait pas trop de suspense.
Même 30, ce soir. 34, ouais, je sais pas, ouais, c'était ouais. Bon aussi.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation? Un peu poussif, finalement, l'Olympique lyonnais ce soir. Rémois, mais c'est pas le meilleur match de Lyon version Pierre Sage qu'on a vu ce soir.
Non, mais après, c'est toujours pareil, il y a un adversaire. Il y a des fois des équipes qui concèdent un match nul à domicile face à un adversaire qui n'a pas produit grand-chose.
C'est un match après cette coupure aussi.
Oui, c'est vrai. Et puis c'est un match avant la demi-finale de Coupe de France qui est sûrement le match le plus important de l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison, même si c'est que contre une équipe de Ligue 2. Donc voilà, cette équipe de Lyon, c'est vrai qu'elle a été en plus grande difficulté, même si ils ont quand même eu de grosses occasions. Attention, j'ai remarqué une stat là pendant le match proposé par le diffuseur où Lyon est quand même venu 4 fois plus que son adversaire dans la surface de réparation adverse. Donc il y a un moment, ils ont quand même dominé dans l'ensemble. Ils se sont fait contrer certaines fois, mais il y a eu pas mal de turnovers. Alors le coach parle de turnover, je sais pas si c'était en prévention d'un éventuel match ou si c'était juste des choix tactiques et des choix forts pour certains, mais en tout cas les Lyonnais vont se contenter de ce point du match nul.
T'as été surpris, est-ce que vous avez été surpris justement des choix de Pierre Sage au coup d'envoi? Compo étonnante, parce que Pierre Sage depuis quelques semaines c'est ce 4-3-3 éventuellement qui passe parfois en 4-2-3-1 avec un 10 en cours de match. Là il est parti sur un 4-3-1-2 avec Cherki derrière Orban et Lacazette, Cherki titulaire. Le choix perdant finalement ce soir.
Ouais, oui. Après, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans ce match. C'est pour une fois, en tout cas, les remplacements de Pierre Sage. Par contre, par exemple, j'ai pas compris pourquoi Orban est sorti en tant que dernier joueur par rapport aux trois attaquants qui étaient titulaires. Ouais. Je le trouvais pas vraiment mieux que les deux autres. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, il jouera pas en Coupe de France?
Possible.
C'est possible.
Possible. Donc moi, disons que bon, les surprises, puisqu'on aime bien aussi pronostiquer ce qui va se passer, mais c'est vrai que la titularisation de Cherki, je dirais pourquoi pas, alors que ces derniers temps, Cherki était surtout bon en rentrant en cours de match, et après la sortie à la mi-temps, à moins qu'il y ait peut-être une petite blessure ou une petite gêne, ça on peut pas le savoir ce soir.
Non, on le saura peut-être.
Mais c'était surprenant autant la titularisation que la sortie à la mi-temps.
Yaya est là, supporter lyonnais au 32-16. Salut Yaya, bienvenue dans l'after.
Salut, bonsoir à tous.
Bon, qu'est-ce que t'as pensé du match de ce soir? C'était une petite répétition avant le vrai match important dans 3 jours. Est-ce que tu le prends comme ça?
Ouais, je le prends comme ça, hein, exactement. C'est un match en sérieux de notre part. Je pense qu'on a fait une bonne première période. Sans l'efficacité, bien sûr. On sait qu'on a un match très important mardi. D'ailleurs, les changements l'ont prouvé avec les sorties de Lacazette et Matic. Donc ouais, c'est un match correct. De toute façon, le championnat, on n'a plus grand-chose à jouer. Donc là, il faut tout miser sur la Coupe de France maintenant.
Justement, sur le choix de Pierre Sage, que les changements, on en parle pas mal. À la mi-temps, sortie de Cherki, remplacé donc au retour des vestiaires par Nouama. Est-ce que t'as compris ce changement? Parce que il faut le dire quand même.
Cherki, ouais. Alors vous allez peut-être avoir plus d'impôts. Apparemment, il a eu une petite gêne à Cherki à la mi-temps.
Ah bon.
Il y a un célèbre tout au lyonnais qui l'a dit. Donc apparemment, il a eu une petite gêne.
Ouais, on va écouter de toute façon. Pierre Sage va passer en conférence de presse. J'espère qu'on va pouvoir l'écouter en direct. Oui, parce que
ça me paraît plus logique.
Ce serait le plus logique. On est d'accord que Cherki fait une bonne première période ce soir là derrière ces deux attaquants.
Oui, beaucoup de bonne volonté, donc d'essayer de trouver des solutions. Après, chacun voit les choses à sa façon. Donc je te l'ai déjà dit, je le répète. Moi, l'utilisation de Cherki, c'est pas un numéro 10 derrière deux attaquants. Cette organisation-là, ben, je l'aime pas du tout. Mais un 4-2-3-1 avec un Cherki dans cette ligne de 3, oui, là, je vois quand même, de meilleures choses pour Cherki et pour Lyon.
Non, mais c'est vrai qu'il a été, plutôt bon en première mi-temps. Ça a été un des joueurs les plus en vue. C'était assez surprenant de le voir sortir. Maintenant, si notre auditeur nous dit que c'était une gêne musculaire ou une gêne physique, c'est un peu plus compréhensible.
Ouais.
Je pense que, on va avoir la confirmation en conférence de presse.
Mais t'étais content de sa première période à Cherki, Yaya?
Franchement, ça a été pas mal, hein. Il a donné quelques bons ballons, quelques décalages, notamment sur Maitland Mines. Donc, ça a été pas mal. Bon, après, on va pas sauter au plafond, mais en tout cas, ça a été pas mal. Hein. Sur la lignée de ses deux dernières entrées en championnat ou en équipe de France Espoir.
Et quand tu vois tous les derniers matchs de l'Olympique Lyonnais, les choix de Pierre Sage, il y avait quand même une équipe type qui se dégage, mais si ce soir il a un peu bougé. Yaya, toi, tu veux voir quelle équipe contre Valenciennes en demi-finale de Coupe de France mardi?
Moi, je pense qu'on devrait revenir au 4-3-3 classique avec Lacazette, Nouama, Benrahma, Mangala, Kakré, Matic au milieu de terrain. C'est celle des dernières semaines, je pense.
Et Cherki, Joker.
Et Cherki en joker, exactement, 20-30 dernières minutes, avec Fofana également, très intéressant, Orban. Donc je pense qu'on devrait partir sur ça.
Kevin, c'est le meilleur choix pour Lyon.
Moi je pense en effet que il va repartir sur quelque chose de plus classique, mais de toute façon, on le sait aussi. On sait aussi que en Coupe de France, on l'a vu l'année dernière avec l'Olympique de Marseille face à Annecy, même face à une Ligue 2, tu peux être en difficulté.
Qui a perdu aujourd'hui, dernier de Ligue 2, hein, Valenciennes, bon dernier.
Ouais, bon là, ils sont en grande difficulté, même s'ils ont un très bon entraîneur que je salue, qui est Ahmed Kantari, un ancien joueur, notamment de Ligue 1, Ligue 2. Mais voilà, il va falloir faire attention quand même, mais forcément, Lyon est ultra favori, avec en plus ce système de jeu qu'ils commencent à bien connaître. Ils sont aussi assez performants sur coup de pied arrêté. On a un Tchaleta Tsar qui revient quand même très bien aussi. Et ça fait du bien depuis quelques semaines maintenant à l'Olympique Lyonnais. Donc que ce soit offensif. Lopez aussi qui fait un bon match, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il fait deux arrêts, notamment là dans les 5 dernières minutes, il fait une claquette décisive.
Oui, c'est vrai.
Mais même s'il jouera pas en Coupe de France.
A priori, ça devrait être Lucas Perry. Mais bon. Ouais, Yoya, vas-y.
Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Matic, j'ai quand même quelques doutes. Hein.
Bah, ce soir, j'ai pas un bon match. Hein.
Bah, de toute façon, Matic, c'est simple.
Quand il a la pression, quand on va haut sur lui, il se retrouve toujours en difficulté. Hein.
Ouais. Mais ce soir, il avait pas une pression de fou non plus.
C'est sûr, Matic, c'est une légende. C'est un des meilleurs joueurs des 10-15 dernières années dans le football européen. Ça, c'est dit, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, Matic, c'est un vétéran. C'est un joueur qui d'ailleurs, t'as une licence de vétéran à partir de 35 ans. C'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est que c'est un joueur en toute fin de carrière. Et forcément, quand l'intensité s'élève, pour lui, c'est un peu plus compliqué, même s'il a toujours sa métronomie au milieu de terrain, la capacité à garder le ballon, à renverser, à jouer simple, à rater et à perdre très très peu. Mais forcément, quand il s'agit d'être pressé ou quand il s'agit d'aller presser, c'est plus difficile et c'est normal.
Et puis c'est logique aussi que à la 60e minute ou 65e minute, il faut que un copain prenne le relais.
Je remercie Yaya d'avoir été en direct dans l'after. À bientôt, Yaya. Bye bye. Et on va tenter d'écouter Corentin Tolisso en direct. Sa première réaction en direct de Lyon au micro d'Aurélien Thiersin et Pierre Thévenet.
Bon, je ne vais pas dire qu'on est au ralenti, loin de là. Je pense qu'on a fait un bon match. Bon, pas tout acheté dans ce match. On a eu de belles situations. On a essayé de jouer un beau football. Il y avait pas mal d'espace entre les lignes. On a essayé de jouer court, de jouer long, de jouer sur les côtés. On a montré pas mal de bonnes choses, je trouve. Je pense qu'on méritait un peu mieux. Malheureusement, on a pêché dans la finition et puis Rassassi a bien défendu. Il y avait toujours un pied, une main du gardien ou quelque chose pour nous empêcher de marquer. Ce qui est bien, c'est qu'on a su réagir parce qu'on a pris un but et on est su revenir au score. Et cette saison, c'est rare quand ça arrive. Donc c'est bien, ça montre qu'on a vraiment du caractère. On aurait aimé mettre ce deuxième but vraiment pour montrer qu'on en avait encore plus. Mais voilà, comme je l'ai dit précédemment... Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir aussi ne pas perdre. Donc voilà, on prend ce point. On aurait aimé gagner pour vraiment assurer ce match et vraiment passer à autre chose et pourquoi pas aller voir un autre objectif. Mais voilà, ce soir, on n'est pas encore sûr d'être maintenu. On sait qu'il manque encore quelques points pour être maintenu. Donc à nous, la semaine prochaine, de gagner. Mais après, il y a ce match entre mardi pour nos supporters, pour aller en finale. Et je pense qu'il faudra faire un très très gros match parce que pour nous, pour nos supporters, on se doit d'aller en finale. C'est vraiment l'objectif prioritaire.
Vous partez plutôt confiance.
Ah, on n'entend plus Corentin Tolisso. Bon. Voilà pour la première réaction. Quand j'entends Tolisso, quand même, je me dis bravo Pierre Sage. Le discours infuse sur le côté, on n'est pas sûr d'être maintenu. Parce que c'est ce que dit Pierre Sage depuis le début. Bon, objectivement, ils ont 10 points d'avance au premier. C'est malin parce qu'il y a la Coupe de France aussi de Pierre Sage. Ça permet de garder ses joueurs sous pression parce que c'est vrai que tu peux te dire sinon t'es maintenu derrière il te reste 7 matchs, t'es un peu en roue libre. Là, ça permet de garder ses joueurs concentrés.
Je suis désolé Thibaut, mais t'as vu le traumatisme qu'ont subi les Lyonnais, que ce soit supporters et joueurs. Et là, en l'occurrence, Corentin Tolisso, c'est un supporter et un joueur. Donc, le traumatisme des 6 premiers mois.
Ah oui, ils sont loin les 6 premiers mois là.
Non, mais quand même, en aucun cas. À partir du moment où ils ne sont pas mathématiquement maintenus, il peut parler d'autre chose que de maintien. C'est même une forme de respect pour le football ou pour ses supporters. Ouais. Mais si, il est obligé de dire ça. Bien sûr que les joueurs, il le fait sous-entendre, les joueurs ont hâte de se maintenir pour, pourquoi pas, regarder plus haut et aller accrocher, je sais pas moi, une septième place qualificative pour la Ligue Europa, même si, non, pour la conférence, mais même si je pense qu'ils auront la possibilité de gagner la Coupe de France. Ils se qualifient, bien sûr. J'espère qu'ils vont se qualifier pour eux, en tout cas. Mais je peux pas reprocher à Corentin Tolisso d'être prudent après tous les traumatismes qu'ils ont connus depuis le début.
Pas reproche, mais bon, tu sens
t'énerve
que.
T'énerve quoi? T'as un petit sourire.
Non, bah c'est pas un reproche à lui faire. Mais
non, mais tu t'es obligé.
T'as 10 points d'avance sur Nantes, qui est 16e barragiste. Bon, ils sont maintenus les Lyonnais, quand même.
Ouais, mais peu importe. Ouais. Je te dis, un joueur comme Tolisso, si tu interviews Gift Orgaval. C'était trop de choses. Giftor, il arrive, il est tête brûlée, il va te dire ouais non nous on joue l'Europe, mais un gars comme Tolisso non.
Après je trouve ça bien que Pierre Sage il ait réussi à mettre ça.
Je pense que même là sans Pierre Sage, je pense que Tolisso il aurait sorti ce discours.
Petite pause rapide, moins d'une minute et on est de retour en direct sur RMC dans l'After avec Kevin Diaz et Coach Courbis et avec vous tous au 32-16. Je vois Jean-Claude qui nous a appelé, on arrive dans un instant. On va revenir également bien évidemment sur la prestation des Rémois. On vous attend au 32-16 supporters Rémois. On reviendra également dans quelques instants sur la victoire de Monaco à Metz cet après-midi. Merci d'être là sur RMC en ce samedi soir. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
J'avais dit moins d'une minute ou j'avais pas dit moins d'une minute? On est de retour avec Kevin Diaz, avec Coach Courbis en direct jusqu'à minuit, c'est l'after. Merci d'être là. D'avoir choisi RMC une fois de plus, c'est Jean-Claude, supporter lyonnais. Nous a appelé au 32-16. Salut Jean-Claude.
Ouais, bonsoir messieurs.
Salut Jean-Claude.
Oula, ça va Jean-Claude?
Salut Roland, non, ça va pas, je suis à point parce que ce match, c'est pas le match du siècle, il n'y avait pas un enjeu extraordinaire, mais vous parliez de respecter le foot au bout d'un moment. Il faut que quelqu'un, Tolisso, il n'a pas osé en parler parce qu'il ne veut pas passer pour lui d'un petit canard. L'arbitrage de ce soir, quoi. Vous allez quand même en faire une ligne?
Non, pas du tout, non, pas du tout, on va pas en parler.
Pour Lyon, un carton rouge qui aurait dû être sifflé. Là, je suis en train de regarder les images là. Mais l'action de Cacré dans la surface où il se fait découper. Si c'est Paris, ça fait breaking news sur toutes les chaînes d'info. Ou d'abord, faut être sérieux, quoi. Acceptable.
Non, Jean-Claude, c'était pas prévu d'en faire une ligne, mais comme t'appelles, on peut en parler évidemment. Moi, j'ai pas trouvé l'arbitrage ce soir scandaleux, pas du tout.
Ah,
hein,
bah, tu regarderas les images, tu regarderas.
Je les ai vus, j'avais pas
le terme scandaleux, non. Mais il y a deux trois actions, et notamment celle qui est en train de nous dire. on peut quand même envisager autre chose. Donc,
je peux te dire, de là à parler de breaking news, quand même. C'est échappement. Voilà. Je peux te dire que c'est agaçant quand t'es supporter. Alors, moi, ce que je demande pas grand chose. C'est qu'il y a une VAR. L'arbitre, il va voir, et après, il juge. C'est tout.
Voilà. On a revu au ralenti, notamment, l'action. Tu parles de l'éventuel penalty sur Cherki. En fait, le problème, c'est qu'il se fait tacler une fois que le ballon est perdu, quoi. Donc, difficile de se faire pénalty là-dessus.
Je parle surtout de l'action sur Cacré.
Je vois ce que tu veux dire.
Bah, c'est celle-là, non?
Voilà. Donc, si tu veux, c'est pas grave, c'est pas le match du siècle, mais c'est énervant parce que ça arrive pour d'autres équipes. Et si tu veux, je comprends pas, et ça vous pouvez peut-être me le dire, vous pourrez peut-être en parler lors d'un autre jour, d'un autre débat, pourquoi les arbitres ne se servent pas de la VAR. Je comprends pas.
Mais on peut te l'expliquer très, très simplement. La VAR n'est là que quand l'arbitre a un doute. Pour lui, l'arbitre, il n'a pas de doute. Toi, tu penses qu'il y a pénalty parce que tu es supporter lyonnais. Je suis désolé de te le dire. Hein. C'est le problème de l'arbitrage vidéo. C'est le problème de l'arbitrage tout court. Toi, tu es lyonnais, tu penses qu'il y a pénalty. Un Rémois te dira qu'il n'y a pas pénalty. Des gens neutres comme nous te disent qu'il n'y a pas de scandale. Donc à partir de là, il ne faut sûrement pas perdre une à deux minutes pour chaque action litigieuse. L'arbitrage vidéo n'est là que pour les erreurs manifestes. Il n'y a pas eu d'erreur manifeste. Désolé, mais on ne va pas parler d'arbitrage ce soir.
Ok, non, mais c'est tout. Si vous voulez dire ça, sinon, bah, Lyon, je trouve, a plutôt bien joué. Bien qu'il faudra quand même m'expliquer. Moi, j'entends certains de vos auditeurs supporters lyonnais, je suis pas d'accord. Moi, par exemple, Orban, il faut m'expliquer à quoi il sert sur un terrain de football. Il est pas bon, Orban, il est pas bon.
Pour l'instant, j'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il avait été bon, hein, Jean-Claude, mais je crois pas.
Hein. On a même dit que c'était étrange que ce soit le dernier à être remplacé.
Non, puis le match de ce soir, je le dis et je le répète une nouvelle fois, c'est un match après une coupure internationale, donc tu retrouves ton effectif, tu as dans trois jours une demi-finale de Coupe de France, donc je pense que c'est pas évident du tout pour le coach, c'est une revue d'effectifs, tu es obligé de penser à plusieurs choses. Alors c'est vrai que par moment, allez, sur deux, trois fois dans ce match, mais deux, trois fois, c'est rien par rapport aux certains matchs que nous avons pu voir où il y avait des sifflets, des coups de sifflet qu'on pouvait discuter. Ce soir, allez, dans l'ensemble, je trouve que l'arbitrage s'est bien passé. Il n'y a pas eu de choses catastrophiques.
Les gars, juste un mot d'un joueur et Jean-Claude, j'aurais ton avis, moi, que j'ai trouvé excellent ce soir. Je ne sais pas si vous savez de qui je vais parler. Enrique. Côté gauche.
Ouais.
J'ai trouvé impliqué quasiment sur toutes les offensives lyonnaises.
C'est-à-dire surtout qu'il est remplaçant de Tagliafico.
Tagliafico qui était fatigué.
C'est exactement ce que j'allais dire. Il a quand même Tagliafico en face de lui qui est quand même assez énorme. Donc s'il veut jouer de temps en temps, il a intérêt à se montrer. Et c'est vrai que ce soir, il n'a pas été mauvais.
Ouais. Il a touché 81 ballons ce soir. Pour
toujours un joueur qui. Ils avaient sorti ce joueur un peu de nulle part à l'époque.
Ouais.
Mais c'est un joueur qui est toujours assez cohérent, qui a pas mal dépanné.
Au début, je le trouvais vraiment juste.
Tiens, je remercie Jean-Claude d'avoir été là.
En progrès.
Merci, messieurs. Bonne
à bientôt, Jean-Claude. Bah, salut, merci beaucoup. À très vite sur RMC, j'espère. Will Steele en direct de Lyon.
Je pense que les deux équipes auraient pu le gagner à un moment donné dans le match. Et ils ont eu un vrai temps fort pendant une dizaine de minutes après leur but marqué. Donc, je pense que pour le point du match nul est assez logique. Mais forcément, étant compétiteur, t'as envie de voir cette frappe d'Amir rentrer dans le but et pas dévier. T'as envie de voir le dernier centre de Fokhi arriver dans les 16 mètres et pas en corner. Mais non, je pense que dans l'ensemble, on continue à prendre des points, on continue à ne pas perdre et on continue à embêter les équipes, que ce soit derrière nous ou devant nous. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est le plus important. Je pense que la première mi-temps, c'était un peu un round d'observation. Les deux équipes sont un peu regardées droit dans les yeux. On a essayé de s'adapter à leur système qui était différent de ce qu'on avait prévu. Et c'était, si on est honnête, pas la mi-temps la plus emballante ni la plus intéressante pour un supporter neutre, même si tactiquement c'était assez curieux. Je la prends pour moi parce que essayer de communiquer un truc de là-bas en haut dans le ciel là c'est mission impossible. Mais la deuxième mi-temps était bien plus intéressante. On a vu une équipe de Reims s'exprimer un peu plus, avoir un peu plus de courage au ballon et d'être un peu plus entreprenant. Je pense que le but qu'on met est assez intéressant et on marque enfin sur un coup de pied arrêté. Et puis tu les laisses un peu revenir dans le match, ils rechangent le système. Et encore une fois, on prend un but sur centre qui est évitable. Donc ça, c'est embêtant. Mais chapeau aux rentrants, que ce soit Amir, Koné, les deux latéraux, parce qu'ils ont, enfin, ils ont eu un vrai impact et une vraie énergie en plus sur le match, surtout un Amir et un Koné au milieu. Donc tu réadaptes ton, ton système aussi, tu retrouves un peu plus d'équilibre, et puis oui, comme tu dis, t'es capable de le gagner, mais ouais, t'es sans doute capable de le perdre aussi, donc on va retenir un point intéressant, et tant qu'on perd pas, et tant qu'on continue à mettre des points sur le tableau, c'est le plus important au jour d'aujourd'hui.
Will Steele, au micro de Pierre Thévenet, Aurélien Tiercé en direct de Lyon, et ce soir je pense à Daniel, Kevin, et je me dis que il serait content d'entendre parler foot.
Non mais il y a un moment, il y a pas de secret. Tu entends parler foot hier, Francaise.
C'était pas nous, enfin on s'est pas nous adapté à ce qu'eux faisaient. C'était plus on attendait à ce qu'il y ait des espaces à un certain endroit sur le terrain. Il y en avait pas. On s'attendait à presser d'une certaine façon, sauf que bah forcément il y avait pas leur père devant toi, donc c'était un peu plus compliqué à presser. Et puis je le dis, c'est impossible d'essayer de communiquer un truc de si loin et de si haut. Donc t'es obligé d'un peu bricoler et d'attendre la mi-temps, et puis à la mi-temps c'est un peu plus simple pour communiquer. Maintenant je le dis, tactiquement c'était intéressant, tactiquement c'était assez développé, je vais dire, même si ouais, sans doute pour vous c'était pas hyper en ballon, mais bon, ça fait partie du foot, ça fait partie de là où on en est. On essaye de progresser, on essaye d'avancer, et je te dis, tant qu'on perd pas et tant qu'on continue à prendre des points, c'est le principal.
Voilà pour la première réaction de Will Steele. Juste précise, quand il, ça fait deux fois qu'il parle de crier haut, etc., parce qu'il était suspendu, hein, il était en tribune.
Il le prenait pour lui, hein, quand même. Donc, il sait qu'il va peut-être falloir qu'il se calme un peu sur le banc, parce que lorsqu'il est pas sur la ligne de touche, eh ben, il peut moins aider son équipe, moins influer sur les rectifications qu'il aurait voulu faire et qu'il a pu finalement apporter à la mi-temps. Mais quand tu l'entends, encore une fois, hein, je félicite Francaise hier pour son analyse très juste et très lucide, très pertinente. Mais c'est pareil pour Will Steele. Il y a un moment, les entraîneurs, certains entraîneurs de Ligue 1, ils sont un peu dépassés. Ils sont un peu dépassés parce qu'ils sont pas capables, pendant 10-15 minutes après un match, d'avoir une analyse lucide pour les médias, pour les supporters. Et ça fait partie du football moderne. Tu le vois partout. Et les jeunes entraîneurs le font, même si Francaise n'est pas un jeune entraîneur, puisqu'il a beaucoup d'expérience, mais c'est un entraîneur frais qui vient d'arriver et qui a encore envie de le faire. Mmh. Et malheureusement, les plus anciens, non seulement ils n'ont pas grand-chose à nous raconter, mais en plus, je ne parle pas pour Roland Courbis,
Il y en a qui ont des choses à raconter.
Enfin, les plus anciens entraîneurs, en général, je parle ceux qui, pas forcément de l'âge, hein, mais ceux qui sont depuis très longtemps en Ligue 1, soit ils sont un peu usés, soit ils n'ont pas trop envie, ou ils n'ont pas grand-chose à raconter.
Regarde, Jean-Louis Gasset, c'est bien ce qu'il dit.
Et d'ailleurs, certains sélectionneurs, c'est pareil.
D'ailleurs, c'est marrant aussi ce que dit Will Steele sur le fait d'être en tribune et de détester ça. Ça me fait penser à Franck Haise, qui lui, à l'inverse, tu vois, il avait dit qu'il avait trouvé l'expérience pas mal, qu'il voyait mieux de plus haut, etc.
Il y a les avantages et les inconvénients aussi. Après, t'es haut, ok, tu vois mieux, mais tu peux pas être en communication avec tes joueurs, donc il faut choisir. À la limite, la meilleure solution ou la moins mauvaise, ça serait la première mi-temps en haut et la deuxième mi-temps après, tu descends à la mi-temps et tu remontes plus, tu restes sur le banc.
Alors que souvent, c'est l'inverse. Tu peux passer la première mi-temps en bas, mais tu peux te faire envoyer en deuxième période en haut. Qu'est-ce qu'il a manqué, à votre avis, Kevin, coach, pour que Will Steele ne fasse pas ce constat ce soir? C'est-à-dire que Reims pouvait pas faire, a priori, beaucoup mieux qu'aller chercher ce un partout, quoi. On a l'impression que c'est le max ce soir, quoi.
Déjà, ils ont été, il l'a dit, surpris par la tactique dont tu parlais, hein, avec une espèce de 4-4-2 en losange, avec Ryan Cherki en numéro 10, donc ils ont dû s'adapter. Donc est-ce qu'un entraîneur coach ne pourrait pas changer sa tactique, sachant que l'entraîneur adverse est en tribune et peut plus difficilement se réajuster? Je sais pas, mais ça peut être quelque chose à mettre en place.
Pierre, sachant que Steele est en tribune, va.
Écoute, t'as vu quand même le mind, l'esprit un peu tordu.
L'esprit tordu, ouais. Complètement.
Mais ouais, parce que le football, ça reste un jeu d'échecs. En tout cas, ils ont eu du mal à se réajuster.
Esprit tordu, peut-être plutôt malin que tordu.
On est d'accord, coach. Mais t'as vu, il a dit tordu, lui.
Ouais. T'allais le dire aussi. Reims qui est 9e, 39 points, je le disais tout à l'heure, qui revient à hauteur de Rennes, de Marseille, alors qu'ils joueront demain. Mais bon, dans cette course à l'Europe, ils sont toujours là, les Rémois. Il y a toujours ce petit trou de 4 points avec l'Olympique Lyonnais. Bon, c'est vrai quand on voit les autres équipes, on se dit que il manque peut-être un petit truc quand même pour aller chercher l'Europe.
Un petit truc, il manquait surtout 3-4 joueurs.
Oui, donc de se mettre. Teddy Thomas était absent ce soir.
Mais malgré ce, cette équipe de Reims, Bon, évidemment, je la trouve pas extraordinaire, mais je suis rarement déçu. Puis, je trouve toujours un match sérieux.
Et puis c'est toujours pareil. On en parlait cette semaine pour la Coupe d'Europe, mais le rapport du côté qualité-prix, le rapport masse salariale point prix en Ligue 1, je peux te dire que le Stade de Reims, c'est clairement un des meilleurs clubs français quand tu prends en compte ces facteurs. Donc, encore une fois, bravo à Wishfield, bravo à la Cour, leur directeur sportif et à leur président Caillou, parce que c'est un club qui travaille très bien et qui arrive à enchaîner, comme a dit leur coach, à prendre des points et à être confortablement installé dans le milieu du tableau.
Et Reims qui va avoir des points à prendre dans les prochaines semaines, parce qu'il y a la réception de Nice, et ensuite il y a Strasbourg, Montpellier, Clermont. Donc peut-être l'occasion de faire un rapproché pour les Rémois. 23h25, dans un instant, avec Kevin Diaz, avec coach Courbis et avec vous tous au 32-16. On revient sur la victoire de Monaco, 5-2 à Metz cet après-midi. On vous racontera notamment la passe décisive de l'année de Oukidja, le gardien messin. Pas du bon côté, ça, malheureusement.
C'est incroyable.
Les dernières infos de l'infirmerie marseillaise à 24h, d'OM Paris Saint-Germain, Luis Enrique également, qui nous parlera de cette rencontre. Et puis les drôles de dames à suivre, c'est fini. Hein. Le Barça a battu Las Palmas 1-0. Merci d'être là sur RMC, ne changez rien, on vient dans un instant.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui, il recule de 3 pas, il sort son téléphone, il se rapproche du QR code, il s'élance et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h29, coach Courbis, Kevin Diaz, en direct jusqu'à minuit sur RMC. Direct également vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after. Merci d'être là, d'ailleurs de plus en plus nombreux ce soir. N'hésitez pas à vous abonner, 143 000 abonnés sur la chaîne de l'after. Merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Tout à l'heure, Fred Hermel, Polo Breitner, c'était une grosse journée. On est content de retrouver la Ligue 1, content de retrouver le foot européen, des affiches dans tous les sens. Demain, on aura aussi notre City Arsenal. Fredo viendra nous parler du Barça qui a battu Las Palmas ce soir et Polo Breitner, la grosse journée en Allemagne et la nouvelle défaite du Bayern. Mais d'abord, la Ligue 1. Et avant d'entendre Luis Enrique à la veille du Marseille-Paris-Saint-Germain, la victoire cet après-midi de Monaco. 5-2 à Metz. Monaco qui continue sur son rythme classique. Hein. Une victoire, un nul, une victoire, un nul. Et aujourd'hui, c'était la victoire. Monaco qui est provisoirement deuxième de Ligue 1, qui reprend 2 points d'avance sur Brest et 3 sur le LOSC. Qui s'impose 5-2 face à Metz. Kevin, coach, je ne sais pas ce que vous voulez tirer comme conclusion de cette victoire. Parce que d'un côté, on se dit que oui, Metz est 17e, c'est très faible, ça perd beaucoup. Et de l'autre, quand même, on voit des séquences et des joueurs côté monégasque qui font dire que c'est peut-être pas loin d'être la meilleure équipe derrière Paris quand même.
Exactement. Après, l'AS Monaco, c'est... moi je regardais cette première mi-temps notamment et je me disais, mais c'est d'autant plus frustrant. C'est frustrant. Alors on sait qu'il y a pas des millions de supporters de l'AS Monaco, mais c'est quand même frustrant pour ce club, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui suivent ce club au quotidien, parce que quand tu vois que t'as la possibilité d'aligner Ben Yedder, Ben Seguir, Minamino, Akliouche et Golovin, sans même parler d'un joueur comme Vanderson ou d'un Caio Henrique qui est blessé malheureusement.
Et en laissant Balogun sur le banc, il est rentré en deuxième période.
Oui, mais là je te parle vraiment.
Balogun, il a marqué 2 buts.
Un peu moins fin techniquement.
Mais
c'est avec le Paris Saint-Germain, j'ai même envie de dire même pas derrière, avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est le top du top normalement l'AS Monaco. Alors oui, ils ont eu des absents, ils ont eu des problèmes de gardien depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs mois. Bon, alors certes, ils ont Thilo Kehrer derrière, mais sinon pour le reste, c'est quand même une très belle équipe de footballeurs en tout cas. Et quand tu les vois jouer comme ça en première mi-temps, la passe de Golovin, la fixation de Akliouche, même l'appel de Ben Yedder qui permet de libérer le jeune monégasque avec ce petit intérieur du pied derrière pour finir. C'est un régal. Franchement, c'est un régal. C'est vraiment le foot qu'on aime voir, quand même.
Tu parlais qu'il y a du boulot qui est bien fait du côté de Reims. En ce qui concerne les jeunes, il y a du boulot Monaco, qui est bien fait du Monaco, côté de Monaco.
Monaco, c'est extraordinaire.
Tiens, petite parenthèse juste pour vous
même
dire.
Même s'ils ont des moyens, quand même.
Pierre Sage a parlé de la sortie de Cherki. On a débriefé ce match tout à l'heure. Donc,
oui, alors
il confirme au micro de Canal. Oui. Choix préventif, il a une petite alerte au mollet. Donc, à 3 jours de la demi-finale de Coupe de France. Aucun risque pris par l'Olympique Lyonnais.
Et d'ailleurs, je voudrais enchaîner sur Akliouche, parce que j'en avais parlé dans mes 3 points. Souvent, on dit que enfin certains vous me allez, pas vous me tensez, mais vous me taquinez sur le fait que je veux pas voir les jeunes trop tôt, je suis trop dur avec les jeunes, etc. Mais pas du tout. Moi, un jeune comme Akliouche, c'est exactement ce que je veux voir. Déjà, ils le mettent avec parcimonie, ils prennent leur temps avec lui, mais c'est surtout un mec qui fait pas de furiture. Il est technique, on voit tous sa technique, on voit tous son pied gauche, il est très fin, mais il joue simple. Il joue simple,
technique,
il
joue et intelligent dans le jeu. Aussi.
Exactement, intelligent. Mais pour moi, coach, jouer simple, faire les bons choix, c'est être intelligent dans le jeu.
Oui.
C'est ça le football.
Puis il a 22 ans. Il a pas non plus 17 ans, 22 ans. Et il a joué juste 42% des minutes de Monaco cette saison.
Il a 22 ans. Mais est-ce qu'on peut entendre? Bien sûr, il y a des exceptions. Lamine Yamal, j'en sais rien. Moussiala, il y a toujours des exceptions. Mais un joueur. Souvent on me dit ah mais toi t'aimes bien l'Ajax et à l'Ajax ils font jouer des jeunes. Oui, ils font jouer des jeunes. Mais souvent les jeunes que vous voyez là, ils ont déjà passé 2 ans en D2 néerlandaise avec Young Ajax, qui est la deuxième équipe.
Il y a jeunes et jeunes.
C'est pareil.
21, 22 ans, évidemment que c'est jeune. Mais là où j'appelle ça jeune dangereux, c'est 16 ans. 16 ans et demi tout. 21, 22 pour moi, c'est bon. Tu es un jeune footballeur. Alors que 16 ans et demi,
t'es un adulte.
T'as pas encore fait ta croissance, les problèmes aux articulations. Donc là, pour moi, je trouve que c'est imprudent et qu'il faut y aller mollo maintenant. Après, il y a aussi, même à l'âge de 16 ans, il y en a qui sont plus costauds que d'autres. Mais moi, par prudence, je dis là, faisons quand même attention. Mais 21, 22 ans, évidemment qu'il n'y a aucun problème.
Patrick, supporter monégasque au 32-16, nous rejoint. Salut Patrick, bienvenue sur RMC.
Salut messieurs.
Salut Patrick. Bon Patrick, comment tu vois toi cette fin de saison au regard des dernières prestations de Monaco?
Alors je pense qu'il va y avoir déjà une séquence de 3 prochains matchs là qui vont être décisifs avec des adversaires quasi directs. Hein. Donc concrètement les 3 prochains matchs c'est Rennes, Brest et Lille.
Absolument.
Donc je pense que suite à ces 3 matchs là, on saura déjà très bien où positionner Monaco à la fin de la saison. Aujourd'hui, ça reste quand même assez serré en haut du classement. Donc je pense qu'on va vraiment y voir plus clair à la fin de ces 3 matchs-là.
Et justement, cette séquence de 3 matchs, comment tu l'imagines? Est-ce que tu vois Monaco enfin confirmer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on attend aussi de cette équipe? Mais est-ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui contre Metz, où tu te dis encore que Rennes, mine de rien, c'est à Louis II, que tu galères à Louis II depuis le début de saison, Lille également, ce sera à la maison. Comment tu vois cette séquence, toi?
Là, en fait, c'est un peu le paradoxe, c'est que Monaco nous habitue finalement à faire de bons matchs face à des bonnes équipes. Donc concrètement, c'est vrai effectivement que ce sera à la maison, Rennes et Lille à la maison, mais je suis assez confiant dans la mesure où ils nous ont quand même habitués, et notamment en 2024, finalement à faire de bonnes prestations face aux bonnes équipes, type PSG, type Lens, voilà. Donc moi, je reste plutôt confiant,
d'autant plus
avec ce qu'on a vu aujourd'hui.
Comment tu expliques, toi qui es supporter, comment tu expliques Comment tu vis cette inconstance permanente?
Alors c'est vrai que c'est assez dur. Je pense qu'il y a peut-être aussi un manque de motivation, peut-être un manque d'enjeu sur certains matchs ça ne booste pas forcément les joueurs peut-être à...
Tu veux dire dû à l'environnement particulier de jouer à Monaco?
Exactement, c'est vraiment l'environnement particulier monégasque qui, je pense, ne permet pas de sublimer vraiment les talents que vous avez cités tout à l'heure, les talents techniques vraiment de l'équipe. On le voit tout de suite, dès qu'il y a un match en jeu, ils répondent toujours présents. Donc c'est vraiment, je pense, un manque d'émulation, un manque d'ambiance qui permettrait de vraiment les pousser à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, notamment à domicile.
Monaco aussi qui souffre défensivement toujours parce que tu gagnes 5-2 cet après-midi. Bon, tu prends encore 2 buts à Metz. 11e défense de Ligue 1.
D'accord, mais deuxième attaque. C'est pas seulement ça. Bon, il y a le score. Il y a les 2 buts pris contre Metz et tout. Mais il y a quand même aussi un équilibre quand on regarde une équipe. Après, c'est chacun ses goûts. L'équipe de Monaco qui démarre le match. Mais elle est complètement, pour moi, déséquilibrée sur le plan offensif. Tu as deux latéraux offensifs, tu as Golovin qui est couplé avec un numéro 6, et tu as 4 joueurs offensifs. Mais ça, je trouve que.
Ouais, tu peux faire ça à Metz.
Oui, peut-être, ouais. Et même tu le fais à Metz, à 4-0, s'il n'y a pas ce quatrième but, que tu fais 3-1 et que tu te retrouves 3-2 à un quart d'heure de la fin, comme ça aurait pu se faire, même à Metz, qui est une équipe en difficulté, ben je pense qu'il y a une exagération sur le plan offensif. Mais après, c'est ma vision personnelle. Je vous l'ai dit, quand j'ai vu la composition d'équipe de Monaco à Metz aujourd'hui, je dis, mais Metz va quand même se débrouiller de marquer là contre cette équipe. Ouais, mais ils en ont même mis deux.
Oui, mais au bout d'un quart d'heure, il y avait 3-0.
Ben bravo. Ben, continuons du côté de Monaco à mettre ces équipes-là dans les trois matchs à venir. Et moi, que je suis curieux et qu'en plus Monaco ne me laisse pas indifférent depuis de longues années, ben je vois certaines compositions d'équipes que je me gratte la tête et je fais chaque fois. Oui, bravo.
Mais mine de rien, coach, ça va quand même avec l'ADN monégasque, l'équipe qu'ils ont mis aujourd'hui. Ok, ils prennent 2 buts, mais ils en mettent 5.
Ouais.
Tu vois. Donc, alors peut-être que ça passera pas contre Lille, hein, ça on va le voir, ou contre Rennes. Mais en tout cas, ils ont quand même des joueurs techniques. Franchement, laissons-les nous mettre les joueurs techniques.
Ouais, d'accord.
Ils encaissent des buts, c'est pas grave. Tu joueras avec deux équipes qui marquent toujours. Si Monaco s'impose, il y aura au moins un peu de spectacle.
Quand je regarde le calendrier de Monaco, quand je regarde les possibilités qu'il aurait pu y avoir pour justement poser un peu plus de problèmes au Paris Saint-Germain, puisque cet effectif de Monaco, ben, je le trouve quand même extraordinaire. Mais je te parle de l'équipe d'aujourd'hui. L'équipe d'aujourd'hui, alors peut-être, et certainement tu as raison, c'est en fonction de cet adversaire que l'on peut trouver moyen, voire même très moyen. Mais j'attends avec impatience de voir Monaco dans les trois matchs là, à venir, pour justement, ben, voir si c'est parce que c'était Metz ou si c'est parce que on a envie de jouer comme ça. Je trouve un petit peu imprudent.
Je remercie Patrick d'avoir été là. Merci Patrick, à bientôt.
Salut Patrick.
Merci à vous, messieurs.
Bon week-end. Salut Patrick, merci d'avoir été là. Un mot quand même sur Metz, et on a peut-être vu la passe décisive de l'année. Alors malheureusement, c'était pas pour un coéquipier, et malheureusement, ça finit contre son propre but. Mais Oukidja, qu'est-ce qu'il a fait là? Une espèce, je sais pas si tu peux raconter le but, mais il reçoit un ballon, il fait une talonnade.
En fait, il veut faire une talonnade vers son défenseur, alors qu'il y a 3-0. La talonnade est contrée, ça fait 4-0.
Et il la rate, la talonnade.
Ouais, il la rate. Non, mais moi, je suis désolé, coach. Moi, le gardien, il joue plus. Hein. Moi, je peux pas. Je peux pas. Déjà, j'avoue que c'est pas un de mes gardiens préférés. Mais là, t'es coéquipier, t'es entraîneur, t'es dirigeant. Non, mais franchement, c'est pas possible de faire des erreurs comme ça. Là, c'est au-delà de la faute professionnelle. Et d'ailleurs, j'en parlais souvent avec François Pinet, qui est un supporter messin. Mais ça fait quand même quelques saisons que c'est un gardien assez, disons folklorique de temps en temps,
un peu fantasque,
mais là c'est, franchement cette talonnade là c'est pas possible en Ligue 1, même pas en National 3, même pas en R2.
Metz 17e, hein, toujours 23 points, 2 points de Nantes qui jouera demain. Calendrier de Metz: déplacement à Brest, réception de Lens, déplacement au Havre, réception de Lille pour les 4 prochaines rencontres.
Voilà. Ben on va
prendre des points contre le Havre notamment,
hein. C'est sûr que là, bon. Tu peux nous dire les trois autres aussi pour terminer?
Non. J'ai une feuille qui s'arrête, je ne sais pas. Attends, regarde. On va voir si je peux cliquer en live. Metz, calendrier. Je l'aurais fait que pour toi, Roland, sache-le. Alors, Brest, Lens, Le Havre, Lille, et ensuite Rennes, Strasbourg et Paris Saint-Germain pour finir.
Pour la vache.
Bon chance, comme on dit.
Oui,
dans le milieu cinématographique.
Ça va être compliqué.
Ouais. Ça sent la Ligue 2 quand même.
Ça sent la Ligue 2. 23h41, l'after sur RMC. Dans 24 heures, on saura qui, de Marseille ou du Paris Saint-Germain, s'est imposé. C'est le choc de cette 27e journée de Ligue 1. Grande soirée sur RMC dès 20h avec Jean-Louis Tour au direct du Vélodrome et jusqu'à 1h du matin avec le retour de la Libre Antenne pour cette affiche à partir de minuit avec vous tous au 32-16. Les dernières nouvelles du soir concernant l'infirmerie marseillaise. Vous le savez, on en a beaucoup parlé tout au long de cette semaine. Il y a quelques jours, c'était limite, fallait envoyer les U12. Et finalement, donc il y a les joueurs blessés, ça, pour longtemps, on le sait, les Klos, les Rongiers, ils sont pas là. Les incertains, eh ben, ils devraient tous être dans le groupe finalement. À savoir Balerdi, Pape Gay, Gigot et Ulysse Garcia. Concernant Balerdi et Gay, ils n'ont pas participé à l'entraînement collectif hier, mais leur évolution est satisfaisante. Donc la tendance, c'est qu'ils soient convoqués dans le groupe. Et dans ces cas-là, ils feront un dernier test demain matin pour voir s'ils sont totalement prêts à débuter. Donc dur ce soir d'avoir une compo probable, mais voici les dernières infos plutôt bonnes pour l'Olympique de Marseille, signé Flo Germain.
Débuter, mais oui, ça va être le test demain matin, d'après ce que tu nous dis.
Exactement.
Mais entre débuter et tenir le coup 90 minutes, ce qu'il faudra voir aussi, c'est ces joueurs incertains à la 60e minute, est-ce qu'ils seront encore costauds pour continuer à aller au bout de ce match? Il y a beaucoup de points d'interrogation et j'ai peur qu'il y en ait un peu trop de points d'interrogation.
Mais ça fait quand même une équipe, on en a parlé un peu hier, Kevin, bon, qui peut placer plus d'espoir, ouais, ça te rend compte qu'il y a quelques joueurs.
Oui, mais si tu regardes l'équipe qu'on a annoncée qui pourrait démarrer ce match, ben tu te dis que cette équipe-là, elle peut poser des problèmes à toutes les équipes, mais pendant combien de temps? 95 minutes, ben je suis pas sûr.
Ça va faire peur aux Parisiens, celle-là. Cette équipe-là.
Ça dépendra aussi de ce que fera Luis Enrique en face. On sait qu'il peut parfois faire des choix, comment dire, des dingueries. Et justement, on va l'écouter. Il était en conférence de presse aujourd'hui. Bon, évidemment, quand Luis Enrique parle, faut écouter ce qu'il dit et puis choisir un peu ce qu'on a envie d'entendre. Question lui était posée sur Mbappé, parce que je rappelle calendrier du Paris Saint-Germain. Il y a Marseille demain, trois jours après le vrai match important, la demi-finale, ou en tout cas peut-être plus important, quoi qu'il peut y avoir débat, je sais, j'ai pas envie de le relancer, contre Rennes, la demi-finale de Coupe de France et le Barça dans 10 jours.
Quoi ? Tu dis que...
Je vous renvoie au podcast d'hier, on en a parlé suffisamment. Mbappé titulaire ou pas, la réponse de Luis Enrique.
Tout est possible. Je suis conscient de l'importance de ce rendez-vous, de cette rivalité pour le club et les supporters. Je veux qu'on voit un grand spectacle. L'objectif, c'est d'aller gagner ce match contre l'éternel rival. Mais en tant que responsable de mon équipe, je dois aussi avoir une vision de ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais bien sûr, on va aller à Marseille pour être compétitif. Et l'objectif est de donner de la joie à nos supporters.
Roland, toi, tu le mettrais, Kylian Mbappé, demain?
Mais je ne le mettrais pas. Je pense que tout simplement, Mbappé, c'est un leurre. Dans le sens que Luis Enrique veut attirer notre attention sur la titularisation ou pas d'Mbappé. Alors que le problème, pour moi, numéro un, qui nous est caché au moment où je te parle, c'est que je pense pas que Donnarumma jouera ce match-là et c'est pour moi le meilleur joueur de Paris Saint-Germain.
Pourquoi ne jouera pas?
Mais parce que tout simplement Luis Enrique pensera que c'est mieux de jouer la coupe, et si tu as une chance supplémentaire de gagner la Coupe de France, c'est plus avec Donnarumma dans les buts qu'avec Navas. Et donc, pour que Navas, ben évidemment, fasse pas trop la gueule, eh ben on va le mettre titulaire dans le Classico, et mardi ça sera Donnarumma qui jouera contre Rennes et en cas de qualification qui jouera la finale.
Ah bon?
Voilà, mais ça c'est mon point de vue. Donc on verra demain si j'attends ce qui va se passer pour te dire ce que je pense. Mais à ce moment-là, c'est trop facile. Je le pronostique avant. Et en ce qui concerne Mbappé, je pense même qu'il va démarrer le match. Mais toute notre attention aura été attirée par Mbappé. Alors que pour moi, le problème le plus important, c'est la non-titularisation de Donnarumma, qui est pour moi le meilleur joueur de Paris Saint-Germain depuis le début de la saison.
T'as des infos ou c'est juste une prémonition?
Ah, pas du tout.
Ouais. Mais de toute façon, peu importe qu'il joue ou pas. En fait,
je l'ai entendu aujourd'hui d'Arthur de chez nous, qui a dit, ouais, peut-être Donnarumma et tout. Et dès qu'il a dit ça, j'ai dit, mais non, il n'y a pas peut-être. Pour moi, Donnarumma ne va pas être titulaire à Marseille.
Ça changera pas grand-chose. Que ce soit Donnarumma ou Navas, c'est pas ça qui peut faire basculer le match demain, quand même. Si.
Ah ben quand même, vois un petit peu du côté de Lyon et pose la question ce soir à l'entraîneur de Lyon, c'est qui jouera la demi-finale et la finale en Coupe de France.
Bon, en tout cas,
donc tu vas mettre Lopez dans une finale de Coupe de France, tu vas mettre Lopez qui est pour moi une légende dans ce club, remplaçant pour la finale. Eh bien, j'aimerais pas être à la place de l'entraîneur de Lyon.
On verra demain. Puis tiens, j'ajoute un dernier truc concernant Luis Enrique. Dans une autre interview diffusée à Prime, accordée regardez après une vidéo sur Mbappé. Il dit « J'ai toujours l'espoir que Kylian change d'avis. Il n'a rien dit pour le moment, il peut changer d'opinion. Imaginons que nous gagnions les 4 titres cette saison et que Kylian prenne sa décision au dernier moment, que sa place est à Paris. Pourquoi pas, on verra. » Il dit tout ça, voilà.
Les quatre, il change souvent d'avis quand même, Lucien Riquet. Hein.
Ouais, un peu plus que Mbappé, je pense.
Oh là là.
23h47.
C'est quoi les 4 titres?
Ligue des Champions, Coupe de France, Championnat et Trophée des Champions.
Ah, Trophée des Champions.
Ah, oui. Allez, dernière petite pause et on retrouve les drôles de dames, ouais, justement.
C'est vrai qu'il faut arrêter de parler de titres pour le Trophée des Champions.
Oui. Ça, oui. Après, si, c'est
un match amical.
Dans le palmarès, quoi. Fred Hermel, justement, nous rejoint pour parler Ligue des Champions. Il a regardé le match du Barça ce soir, le dernier match de Barcelone avant le quart de finale face au Paris Saint-Germain dans 10 jours. Et puis, Paulo Breitner, grosse journée en Allemagne où le Bayer Leverkusen s'est encore un peu, voire beaucoup rapproché du titre. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h49, c'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Coach Courbis. C'est Kevin Diaz, toujours en direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after. Énorme week-end de foot, ça fait du bien de retrouver notre Ligue 1, de retrouver nos championnats étrangers également. Fred Hermel est là, salut Fredo.
Hola chicos.
Salut Fred.
Et Paulo Breitner. Salut Paulo. Ah, tout va bien.
Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir tout le monde.
Très heureux de vous retrouver les gars. On est en espèce de super apéritif avant, bien sûr, les drôles de dames de Génération After du lundi.
Pour l'apéro à minuit moins le quart.
Tous les lundis. Bon, est-ce qu'il y a vraiment des heures?
C'est un espagnol.
Ah ouais. Voilà, l'espagnol.
Paulo, j'ai fait un pronostic aujourd'hui. Je pense que Leverkusen est votre champion.
Waouh.
Wow. Paris, vas-y.
Écoute, je suis en forme. Hein.
Alors, on va en parler dans quelques instants du Bayer Leverkusen qui est encore fait un match de dingue pour s'imposer. Dans le même temps, le Bayern Munich a perdu le Classica face au Borussia Dortmund. Mais d'abord, le match du soir, Fredo, et la victoire du Barça face à Las Palmas 1-0. Alors, on rappelle, c'était le dernier match de Barcelone avant le Paris Saint-Germain. On ne les reverra plus d'ici le 9 avril.
Puisque la semaine prochaine, il n'y a pas de Liga. Samedi soir, il y a la finale, la Copa del Rey, la Coupe du Roi, l'équivalent de la Coupe de France version espagnole, qui va opposer l'Athletic Club de Bilbao à Majorque.
Ah oui,
donc,
c'est vrai.
Le foot s'arrête. Donc,
alors, c'est vrai qu'il n'y a ni Barça, ni Real.
Et... Non. Mais en fait, c'est 10 jours de repos, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est 10 jours où tu peux beaucoup travailler tranquillement chez toi. C'est pas bien parce que quelqu'un comme Ferran Torres qui revient de blessure, qui n'a joué que quelques minutes là ce soir, n'aura pas de match avant le PSG pour se remettre en forme.
Le joueur en réserve. Voilà.
Ça joue pas en Espagne. On fait pas de réserve en Espagne. On n'envoie pas des joueurs en réserve de l'équipe première. Ça ne se fait pas.
Mais justement là-dessus, Roland, même Kevin, mais sur l'expérience, c'est mieux d'avoir ces 10 jours de pause, d'arriver super frais, de pas risquer de blessure comme le Barça, ou alors d'être dans une compète comme le PSG, là, tu t'enchaînes les matchs importants et tu joues le Barça au
milieu. Je me dirais 15 jours ou 3 semaines, mais là, il y a eu une coupure internationale. Il y a eu un match qui, je pense, s'est terminé sans blessure. Et maintenant, tu as une dizaine de jours pour te préparer. Mais évidemment que moi, je préfère ça qu'avoir des matchs tous les trois jours avec des risques de blessure dans un effectif qui a pas été épargné du tout.
Fredo,
il ne faut pas oublier les voyages. Les voyages, les allers-retours, les hôtels. Non, avoir 10 jours pour préparer ton match, c'est l'idéal quand même.
Et puis, il vaut mieux recevoir Las Palmas que d'aller à Las Palmas quand même.
Oui, c'est
le même gros déplacement. Hein, c'est...
Ouais, en plus.
C'est les Canaries, non, c'est ça?
C'est les Canaries, Las Palmas, donc ça fait un petit bout.
J'ai envie de partir en vacances. Juste sur le match du soir, justement, victoire 1-0. Las Palmas qui a perdu son gardien, enfin qui a pris un rouge très vite dans le match, ça n'a pas été a priori un super match du Barça. On l'a regardé d'un œil avec Roland.
Un œil, ça suffisait, hein, franchement.
Ouais.
Ouais, parce que, franchement, à la 25e minute, expulsion de Baïes, le gardien de Las Palmas, pour une faute sur.
En plus que c'est le dernier match, 10 jours avant le match contre Paris Saint-Germain, tu le fais même à 11 contre 10 pendant une heure.
Voilà. Faute sur Rafinha, une sortie en dehors de sa surface, mais c'est incroyable qu'un gardien de première division fasse un truc pareil. Donc automatiquement, tout était... Et le remplaçant n'a pas été mauvais, hein. Mais automatiquement, à ce moment-là, l'Las Palmas était condamné. Quand tu dois jouer plus d'une heure face au Barça, chez lui, avec un joueur en moins, et en plus avoir perdu ton gardien titulaire, Et pourtant, on s'attendait à une goleada du Barça, c'est-à-dire plusieurs buts. Non, ça s'est pas venu. Il a fallu, collectivement, ça n'a pas été génial. Il a fallu, quelque chose de lumineux, personnel, c'est-à-dire une passe merveilleuse de João Félix pour pour la tête non moins merveilleuse de Rafinha dans la lucarne. Et c'est voilà, c'est tout. Il y a eu des ratés énormes ensuite. Lewandowski, mauvais match. Lamine Yamal, qui a été extraordinaire avec l'Espagne, est un petit peu en dedans ce soir. Il y a beaucoup de pression sur le gamin, donc on va voir ce qui va se passer dans 10 jours. Mais franchement, mauvais match du Barça, quoi. Et encore à 1-0. C'est le 14e 1-0 du Barça cette saison en Liga. C'est fou, hein. Donc ça n'a pas été un bon Barça. Alors, ces 3 points qui sont pris, ça met un peu de pression sur le Real qui reçoit l'Athletic Club de Bilbao demain soir. Mais sincèrement, si ce match était fait pour se rassurer au niveau du jeu, pas au niveau des résultats, au niveau du jeu, bah franchement, je vois pas comment ça peut rassurer le Barça. C'était vraiment pas terrible, parce qu'en face, c'est un promu qui fait une belle saison. Enfin, une heure avec un joueur en plus.
Oui, c'est vrai.
Ouais, enfin, c'est. Alors. Bon, c'est pas la même attitude qu'on aura face au PSG. En tout cas, c'est pas grandiose, quand même, ce qu'on a vu ce soir.
Il y a pire, Fredo, et bien pire que le Barça. En ce moment, il y a le Bayern, Polo, qui a perdu 2-0 à nouveau, aujourd'hui, le Classicard. Face au Borussia Dortmund. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen qui a renversé Hoffenheim dans les deux dernières minutes. Bon, 13 points d'avance. Leverkusen, il n'y a plus de Leverkusen là, hein, ça y est.
À partir du moment où le coach Thomas Tuchel a félicité Leverkusen pour son prochain titre, je crois qu'on peut arrêter le débat. Leverkusen sera logiquement et l'a largement mérité son titre en 2024. Mais je trouve intéressant le fait que le Bayern Munich ait été très très moyen, pour ne pas dire médiocre, face au Borussia Dortmund, parce qu'il y a peut-être un effet psychologique, puisque tu viens de le dire, et c'est pas la première fois cette saison. Leverkusen à la 87e était mené encore 1-0 et finalement renverse la rencontre et l'emporte durant les arrêts de jeu. Et lorsque tu joues une heure après un match très important en Allemagne contre le Borussia Dortmund, tu peux te dire, finalement, on n'arrive pas à rattraper ces fameux 10 points contre Leverkusen. À 2 minutes près, on était à 7 points si on l'emportait contre Dortmund. Et finalement, on se retrouve à 13 points après une performance assez dramatique. D'ailleurs, Joshua Kimmich, après la rencontre, a parlé d'un match amical. Il ne comprend pas l'intensité qu'a mis le Bayern Munich dans cette rencontre. Ce n'est pas la première fois cette saison. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir quand même que ce Bayern Munich est incapable de passer la surmultiplier lorsque c'est nécessaire, et c'est pas nouveau, et c'est pas sous Thomas Tuchel, c'était pareil sous Nagelsmann. Il y a un moment où ça devient délicat, et donc est-ce que c'est un problème générationnel? Moi personnellement, c'est ce que je pense. Il va vraiment falloir faire le ménage cet été entre des joueurs et notamment la génération intermédiaire. Mais si tu veux, le problème, c'est que le meilleur joueur du Borussia Dortmund, il s'appelle Mats Hummels. Ce soir, ouais. Il a fait une masterclass. Ouais. Donc, c'est pas l'attaque du Borussia Dortmund qui était extraordinaire. Elle a juste piqué, comme elle sait le faire habituellement, avec des joueurs plutôt rapides comme Adeyemi et Sancho. Mais ça montre pas fondamentalement une supériorité du Borussia Dortmund sur le Bayern Munich. C'était la première fois depuis 10 ans que Dortmund l'emportait à Munich. Donc, ça faisait longtemps, évidemment. Ils ont pris beaucoup de raclées ces dernières saisons. Mais, si tu veux, moi, je m'intéresse plus sur un patient malade qui est quand même le Bayern Munich, et très clairement le championnat c'est fini. Tout le monde voit bien que si ce Bayern-là joue de cette façon contre Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions, faut pas espérer grand-chose, faut être très clair. Mais personne n'arrive à trouver le pourquoi du comment. C'est ça qui me semble intéressant.
Après, le personnage central, on a l'impression que malheureusement là, c'est Tuchel finalement. C'est encore plus cata depuis qu'il est arrivé, alors qu'il était censé redresser un peu le truc. Finalement, c'est encore pire.
Pire, je sais pas. Il a remporté le championnat l'année dernière à la dernière seconde du championnat. On peut évidemment ne pas être d'accord avec son style de jeu. D'ailleurs, il y a beaucoup de débats en Allemagne là-dessus. Moi, sur le fait que c'est peut-être un peu trop précautionneux par rapport au jeu de Nagelsmann avant. Mais dans ces conditions, pourquoi s'est-on séparé de Julian Nagelsmann à l'époque, qui lui-même, depuis 2 saisons, n'arrivait pas.
On a quand même souvent pensé que c'était une erreur quand même.
Non, toi, tu as pensé que c'était une erreur.
Je le pense toujours,
mais,
en tout cas.
Mais pense si tu veux, mais quand tu regardes tous les matchs du Bayern sous Nagelsmann, ça fait 3 ans.
Tu viens de dire que c'est pas mieux depuis, donc.
Non, mais c'est pas pour ça que c'est moins bien. Le Bayern 2024 de Thomas Tuchel est supérieur en points du Bayern de Nagelsmann version 2023. Donc si on reste purement mathématique, ce que fait Tourelle est supérieur à ce que fait Nagelsmann avant.
Le problème, truc qui est bien, c'est que là, on n'était pas dans les maths quand même. Il y a aussi ce qui est dégagé sur le terrain, l'entrain, le jeu offensif. C'est aussi
justement, ça fait 3 ans que le Bayern de Munich, avec 2 coachs différents, Nagelsmann et Thomas Tourelle, lors des matchs retour, on n'arrive pas à envoyer la sauce. Et ça, ça devient un peu délicat. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes au Bayern Munich veulent faire un ménage cet été. Parce qu'on sent qu'il faut une nouvelle génération, une nouvelle aspiration. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui quel sera le nouveau coach l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que les mots sont profonds. Et on n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est ça le problème, quoi.
Et il restera la Ligue des Champions comme dernière possibilité. Merci les gars, Apollo.
Salut
les amis. Bonne soirée les gars. À lundi au plus tard, 20h, 22h. Merci Kevin, merci
salut
coach. Bonne soirée.
Salut.
Merci à vous d'avoir été là. Et juste avant de partir ce soir, on a un heureux à faire. C'est Julien qui remporte le maillot de l'équipe de France. Salut Julien.
Salut les gars, salut à tous.
Bon, t'es content, tu vas avoir un coq énorme sur la poitrine.
Ah, c'est énorme. En plus, cette année, ils ont changé le maillot. Enfin, je le trouve magnifique, moi.
Voilà, il arrive à la maison, t'as participé à notre jeu, et tu as été le grand gagnant. Bravo, Julien. À bientôt.
Eh ben, merci beaucoup, et l'after, vous êtes les meilleurs.
Merci. À bientôt, Julien. Bye bye.
Gagnez le nouveau maillot des Bleus sur RMC avec Intersport et rejoignez la grande famille bleue. Intersport, distributeur officiel de l'équipe de France de football.
J'ai un peu coupé la chic, mon Julien. Excuse-moi, mais bravo pour le maillot. 23h59. Ciao, Kevin. À demain, l'after revient à 20h pour la grande soirée autour de Marseille-Paris-Saint-Germain. Merci à tous d'avoir été là. Excellente nuit sur RMC. À demain. Ciao.
RMC, l'after foot.